Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici les titres. Plusieurs centaines de millions de couronnes sont nécessaires pour la construction de la nouvelle ambassade tchèque à Washington. Des militants de Greenpeace protestent contre de nouvelles extractions de lignite. Et puis du football avec le joueur international Václav Pilař qui signe au club de Wolfsburg. La République tchèque prévoit de bâtir une nouvelle ambassade aux États-Unis et a besoin pour cela de plusieurs centaines de millions de couronnes. Le site actualnier.cz précisait ce lundi que le ministère tchèque des Affaires étrangères espérait pouvoir investir dans ce projet le fruit de la vente de bâtiments diplomatiques à l'étranger. Prague a récemment supprimé plusieurs ambassades pour faire des économies et le ministère a mis en vente plusieurs immeubles en Afrique et en Amérique du Sud. L'actuelle ambassade tchèque à Washington DC a été construite à la fin des années 50 en dehors du quartier diplomatique de la ville. Une vingtaine de militants du mouvement Greenpeace ont bloqué dans la matinée de ce lundi l'excavatrice de la mine de lignite à ciel ouvert près de la ville de Litvinov en Bohême du Nord et ont protesté de cette manière contre le projet d'abolir les limites des zones d'extraction de lignite en République tchèque. Plus de détails dans un instant dans les faits et événements avec Václav Richter. Le président russe Dmitri Medvedev a confirmé sa venue dans la capitale tchèque les 7 et 8 décembre prochains. Une information publiée officiellement sur le site internet du président de la République tchèque, Václav Klaus. Le programme détaillé de cette visite n'a pas encore été publié. Dmitri Medvedev est venu à Prague l'année dernière pour la signature d'un traité de désarmement avec son homologue américain Barack Obama. L'un des thèmes importants de cette visite cette année sera évidemment la centrale nucléaire de Temelin et l'appel d'offres auquel participe un groupe russe. L'opéra de chambre de Varsovie fait revivre pour son 50e anniversaire des compositeurs oubliés victimes de l'Holocauste. Son directeur Stefan Sutkowski est passionné par la recherche d'œuvres de compositeurs perdus ou injustement oubliés. Et cette année, il exhume l'Empereur d'Atlantis ou le refus de mourir. Un opéra composé à Térésine en 1943 par le tchèque Viktor Ullmann, qui fut ensuite déporté et assassiné à Auschwitz. L'opéra d'Ullmann, dont le style oscille entre Gustav Mahler et Kurt Weill, fut répété à Térésine. Le livret de Peter Kin, un autre déporté juif tchèque, dénonce le régime hitlérien sous l'apparence d'un conte de fées. Du sport avec, je vous le disais en titre, du football et d'après les informations du site esport.cz, l'attaquant international tchèque Václav Pilař, qui évoluait jusqu'à présent à Plzeň et qui a signé un contrat avec Wolfsburg dans la Bundesliga, mais qui ferait toujours partie de l'équipe championne de République tchèque, toujours en course pour une place en Ligue Europa. Les informations se contredisent à propos de ce transfert. Václav Pilař pourrait en effet jouer le reste de la saison encore dans le club tchèque, avant d'être transféré au club de Wolfsburg, un club qui serait également intéressé par deux autres internationaux tchèques, Tomáš Rosický d'Arsenal et Petr Jiráček, qui joue lui aussi à Plzeň en ce moment. La météo avec les prévisions pour mardi 29 novembre, quelques nuages et des températures autour de 6 degrés en journée dans la capitale. Le bulletin et plus d'informations, c'est sur internet www.radio.cz et dans une poignée de secondes, c'est Václav Richter pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Les militants du mouvement Greenpeace ont protesté contre les tentatives d'abolir les limites des zones d'extraction de lignite en République tchèque. Entretien avec Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateur et acteur du film La Fée, qui sort en salle le 1er décembre. Tels sont les sujets de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique sportive qui vous sera présentée par Guillaume Narguet. Tels sont donc les thèmes de cette émission préparée pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Une vingtaine de militants du mouvement Greenpeace ont occupé dans la matinée de ce lundi l'excavatrice géante de la mine de lignite à ciel ouvert près de la ville de Litvinov en Bohême du Nord. Ils ont protesté de cette façon contre la tentative d'abolir les limites des zones d'extraction de lignite en République tchèque. 6 hommes ont grimpé sur la machine géante au moment où elle n'était pas encore en marche pour y accrocher une banderole s'adressant au premier ministre tchèque. Nečas si zastav, Nečas arrête. Selon Michal Komárek du mouvement Greenpeace, c'est la dernière possibilité d'attirer l'attention sur les activités du gouvernement qui prépare une nouvelle conception de la politique énergétique et envisage d'abolir les limites des zones d'extraction de lignite. L'incident a été commenté aussi par Gabriela Benešová, attachée de presse de la société Czech Coal, exploitant de la mine.
Ce qui est le plus important en ce moment pour nous, c'est d'éviter un accident. Les militants de Greenpeace ont pénétré illégalement sur un terrain privé et ils violent par leur action les règles de sécurité. Ils mettent en danger leur santé et celle des employés de la mine. Nous cherchons à trouver une solution en commun avec l'Office régional des mines de Most, mais pour le moment, nous n'intervenons pas.
D'après l'attaché de presse du ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce, Michal Komárek, un des scénarios de la nouvelle conception énergétique tchèque envisage en effet une exploitation maximale de toutes les ressources énergétiques du pays. Il ajoute cependant que les limites d'extraction de lignite ne doivent pas être abolies avant 2015. Néanmoins, les grands exploitants des mines et producteurs d'énergie en République tchèque se montrent impatients. Le chef de l'association des centrales thermiques, Mirek Topolánek, exhorte le gouvernement à prendre des mesures plus énergiques.
Les limites de l'extraction doivent être abolies très rapidement. Le rôle de la représentation politique du pays est d'imposer cette mesure et de l'expliquer à la population.
Mirek Topolánek de souligner qu'aucun gouvernement tchèque n'a eu jusqu'à présent le courage de le faire. L'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, Martin Kocourek, qui préparait la nouvelle conception énergétique, devait tenir compte du fait que le gouvernement s'était engagé à ne pas abolir les limites avant 2015. Un des scénarios de la conception de la réforme préparée par le ministère comptait pourtant sur cette abolition. Le ministre expliquait alors.
Si l'extraction de lignite était arrêtée pendant longtemps, cela pourrait avoir des conséquences sociologiques et autres pour les régions minières, notamment par exemple dans le domaine de l'emploi.
Les limites des zones d'extraction ont été adoptées par le gouvernement dès 1991 pour sauver au moins une partie du paysage dans les régions où se trouvent des gisements de lignite. Avant cette date, plusieurs agglomérations avaient dû céder la place à des mines à ciel ouvert. Depuis cette époque-là, les militants écologistes et une partie de la population des régions concernées continuent à appeler le gouvernement à favoriser l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, à protéger l'environnement et à sauver le paysage tchèque pour les générations futures. Dans le cadre du Festival du film français, étaient invités en République tchèque Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateurs et acteurs issus du monde du théâtre corporel et de rue. Ils présentaient leur dernier opus, La Fée, qui sort en salle le 1er décembre. Découvrir les films de ces réalisateurs, c'est se laisser emporter dans un autre monde du cinéma, un monde où ne s'appliquent pas les règles de blockbuster au succès garanti, mais où règne la poésie et le burlesque. Anna Kubichta s'est entretenue avec les réalisateurs.
Fiona Gordon, Dominique Abel, vous êtes réalisateur et acteur. Vous présentez ici le film La Fée dans le cadre du Festival du film français. Alors, j'allais dire que vous êtes un duo de réalisateurs, mais c'est pas vrai parce que vous êtes un trio. Alors, est-ce qu'on pourrait juste aussi rappeler qui est le troisième membre du groupe ?
Oui, alors le troisième membre du groupe, c'est Bruno Rumi. C'est un Normand. Il parle pas l'anglais, donc souvent c'est nous qui allons dans les pays. Des pays où on ne parle pas forcément le français. Et lui, il fait beaucoup en France. Et on collabore avec lui depuis pas mal d'années déjà.
Est-ce que vous pourriez un petit peu présenter La Fée ? Est-ce qu'on peut vraiment raconter finalement vos films ? Parce que vos films, ils ne se racontent pas, il faut les voir. Hein. Mais ne serait-ce que pour une petite mise en bouche.
C'est comme vous dites, c'est toutes nos histoires sont plutôt assez simples. On essaie de laisser de l'espace pour le jeu. Et pour que la fragilité de chaque personnage s'épanouisse. Et donc, cette fois-ci, c'est l'histoire d'une espèce de fée, mais une fée un peu foireuse. D'ailleurs, elle n'est peut-être pas une vraie fée.
Oui, ça, le doute plane un petit peu hein, sur.
Oui, mais qui se débrouille parce que c'est en fait c'est une espèce d'humaniste inconsciente et courageuse qui essaye de faire du bien et parfois fait du mal en faisant du bien. Et puis elle voit de sa fenêtre un veilleur de nuit solitaire et décide de venir en aide. Ou bien peut-être elle tombe juste amoureuse, donc elle trouve un prétexte pour aller la voir et la rencontrer.
En tout cas, c'est le coup de foudre entre les deux, ça c'est clair, hein, puisqu'il y a même un bébé qui naît. Et alors c'est intéressant parce que ces deux personnages, finalement, on les retrouve aussi dans votre précédent film, L'Iceberg. Hein, de manière différente, quoi, parce que c'est une autre... c'est une autre alchimie qui se fait, en tout cas dans le trio. Mais c'est un peu des personnages archétypaux, on a l'impression qu'on retrouve comme ça. Est-ce que justement c'est une volonté de les retrouver comme ça de film en film?
Oh, c'est toujours nous, c'est-à-dire on est des clowns un peu... quand on est clown, on n'essaye pas d'imiter d'autres ou de composer un personnage. On essaye surtout c'est d'utiliser ce qui nous diffère des autres et de exposer notre propre maladresse, nos fragilités, nos bêtises, nos conneries. Et donc ça, comme on base toujours notre écriture sur ces deux personnages, ben on les retrouve, mais dans des métiers différents et dans des relations différentes. L'iceberg dont tu parlais, c'est un peu une crise d'une femme qui se rend compte qu'il y a des enfants, qu'il y a un mari, qui se rend compte qu'elle est même plus remarquée, elle n'existe plus, elle est transparente. Et donc, pour des raisons un peu difficiles à expliquer, elle part voir un iceberg et le mari qui se réveille se dit mais où est-ce qu'elle est et il se met à la suivre. Donc c'est une espèce de sea movie. Rumba qu'on a fait après, c'est un couple super heureux qui adore danser la danse latino. Et c'est des profs, et un jour il y a un accident terrible, et c'est un peu comme si le destin va détricoter tous les signes, tout le côté matériel de leur vie va les appauvrir, va s'acharner dessus jusqu'au bout du bout du bout. Et voilà, ici c'est la fée.
Bah, j'avais envie de dire, alors c'est pas parce qu'il y a une fée dans ce film aussi, mais j'avais envie de dire que c'était plutôt des contes en fait, vos films.
C'est souvent un petit peu des contes ou des fables. On se détache un tout petit peu de l'actualité, même si souvent on utilise les choses qui nous imprègnent, nous, dans l'actualité pour écrire, mais on essaie de trouver un contexte un peu plus large, un petit peu moins défini, pour pouvoir faire nos conneries, en fait. Et aussi, on a envie que ça soit valable dans 20 ans et dans 100 ans.
C'était donc les cinéastes français Fiona Gordon et Dominique Abel au micro d'Anna Kubista. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Comme chaque lundi, place maintenant à la rubrique sportive, au sommaire de laquelle figurent tennis et football. En tennis tout d'abord, Guillaume Narguet reviendra sur le parcours de Tomáš Berdych au Masters de Londres. Même sans atteindre la finale du dernier tournoi de la saison, le Tchèque a fini l'exercice 2011 sur une bonne note. Et puis en football, la moitié des journées du championnat de République tchèque a déjà été disputée. Et c'est le Sparta Prague qui a été sacré champion d'automne à l'issue de la phase aller.
Sport en République tchèque.
Tomáš Berdych n'a pas imité Petra Kvitová. Il est certes devenu le premier joueur tchèque à se qualifier pour les demi-finales du Masters depuis Ivan Lendl il y a 20 ans, mais battu par Joe Wilfried Tsonga en 2-7, 3-6, 5-7 samedi soir à Londres. Tomáš Berdych n'est pas allé plus loin dans le prestigieux tournoi réunissant chaque fin de saison les 8 meilleurs joueurs mondiaux. C'est donc Roger Federer qui a remporté le Masters pour la 6e fois de sa carrière et Tomáš Berdych, comme nous l'avons dit, n'a donc pas imité Petra Kvitová, vainqueur elle, il y a 3 semaines à Istanbul du Masters féminin. Malgré une pointe de déception légitime, Tomáš Berdych, qui participait à son 2e Masters consécutif après sa grande première la saison dernière, avait cependant plusieurs raisons d'être satisfait au moment de faire le bilan de son tournoi londonien.
C'est difficile de ne retenir qu'une seule chose positive, mais disons que je suis d'abord très content d'avoir fait mieux que l'année dernière. J'ai profité de l'expérience emmagasinée lors de ma première participation pour me qualifier cette fois pour les demi-finales. J'ai gagné 2 matchs de groupe accrochés contre Tipsarevic et Ferrer, même si je regrette toujours d'avoir perdu le premier contre Djokovic, surtout après avoir eu une balle de match. On n'a pas l'occasion de battre le numéro 1 mondial tous les jours, et il ne m'en a pas manqué grand-chose. D'un autre côté, qui sait ce qui se serait passé si je l'avais battu? Peut-être aurais-je perdu mes deux matchs suivants et n'aurais-je pas atteint les demi-finales. C'est pourquoi je suis satisfait dans l'ensemble de mon parcours et de cette demi-finale.
Contre Tsonga toutefois, Tomáš Berdych est apparu quelque peu au bout du rouleau, en manque de jambes et d'inspiration. La faute essentiellement aux trois matchs de groupe très accrochés en 3-7, disputés les jours précédents, dont le troisième contre l'Espagnol David Ferrer tard dans la soirée de vendredi, mais aussi à un adversaire plus en forme, comme l'admettait le Tchèque.
Je dois reconnaître que Tsonga était meilleur que moi. Il ne m'a pas laissé beaucoup d'occasions. Je n'étais pas à 100% de mes moyens, j'avais un peu de fièvre avant le match, mais j'ai quand même voulu jouer. Mais ma seule chance était que Tsonga ne soit pas dans un bon jour. J'ai subi le match, j'ai attendu de voir ce que ferait mon adversaire, et ce n'est jamais très bon. Bien sûr, tout restait possible. Je suis entré sur le court en me disant qu'il pouvait quand même y avoir un déclic. Mais ce déclic n'est jamais venu. Je me suis battu, je n'ai pas pris une raclée, mais ça, tout le monde s'en fout. Tsonga a gagné, et moi j'ai perdu, et il n'y a rien de plus à dire.
Demi-finaliste au Masters, et demi-finaliste une semaine plus tôt au Masters 1000 de Paris à Bercy, Tomáš Berdych a signé une fin de saison plus qu'honorable. Elle l'a été d'autant plus que quelques semaines auparavant, cette fin de saison avait également été marquée par la conquête d'un titre, le sixième de sa carrière et surtout le premier depuis plus de 2 ans. Pour le Tchèque, il s'agit de l'un des temps forts de sa saison 2011.
C'est vrai, je place très haut ma victoire à Pékin, car ce n'est vraiment pas un tournoi facile. Quand j'ai vu le tableau avant le premier tour, je n'aurais jamais pensé repartir avec le trophée. Cette victoire m'a aussi soulagé. L'année dernière, j'avais été le seul joueur qualifié pour les Masters à ne pas avoir remporté un seul tournoi durant la saison. Je voulais éviter ça cette année, surtout que les titres restent ce qu'il y a de plus beau.
Au-delà encore des résultats, cette fin de saison 2011 a également démontré que Tomáš Berdych avait peut-être enfin franchi un nouveau palier, essentiellement au niveau mental. Même sans toujours jouer de façon extraordinaire à Londres, le Tchèque a en effet néanmoins prouvé par son comportement sur le court qu'il n'entendait plus se contenter d'une place honorable parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux, classement qui est le sien pour la deuxième saison consécutive. Plutôt régulier dans ses performances tout au long de la saison, à l'exception des tournois du Grand Chelem décevants, Tomáš Berdych semblait toutefois manquer jusqu'alors de l'étincelle indispensable pour pouvoir concurrencer les Djokovic, Nadal, Federer et autres Murray. Le Masters et les semaines qui l'ont précédé ont peut-être enfin permis à Tomáš Berdych de se découvrir l'âme d'un guerrier qui lui manquait tant jusqu'alors. Et puis on passe au football, le Sparta de Prague a été sacré champion d'automne de République tchèque ce week-end à l'issue de la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat. Et malgré le peu glorieux match nul 0-0 concédé à domicile dans le derby contre le Dukla, le Sparta possède 6 points d'avance sur son premier poursuivant, le Slovan Liberec, et 9 sur Mladá Boleslav, 3e au classement de la Gambrinus Liga. Le champion en titre, le Viktoria Plzeň, auteur d'un parcours somme toute honorable en Ligue des Champions, comme en témoigne sa victoire 1-0 obtenue contre le Baté Borisov en Biélorussie la semaine dernière. Le Viktoria Plzeň donc figure lui à la 5e place avec 10 points de retard sur le club pragois. La chasse pour la défense du titre s'annonce donc compliquée pour l'équipe de Bohême de l'Ouest, défaite à la surprise générale dimanche à Příbram 2-1. Une journée de championnat, la 16e et donc la première de la phase retour, figure encore au programme le week-end prochain avant la traditionnelle longue trêve hivernale. Le championnat de République tchèque reprendra ensuite ses droits à la mi-février. Seules 14 journées resteront alors à disputer pour pouvoir décerner un nouveau titre de champion dont le Sparta de Prague est donc pour l'heure le prétendant le plus sérieux.
C'était donc les sports avec Guillaume Narguet. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.